VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Les sénateurs Bernie Sanders et Elizabeth Warren ont été vivement attaqués hier par leurs rivaux modérés lors du débat entre prétendants à l'investiture démocrate pour la présidentielle de 2020, qui a révélé les lignes de fracture idéologique au sein du parti. Au-delà de leurs différences, les démocrates américains se sont retrouvés pour dénoncer le président Donald Trump, accusé par eux d'être un raciste, et par la sénatrice centriste Amy Klobuchar et Bernie Sanders, qui a ajouté « sexiste et homophobe ». Le parti républicain a dénoncé sur Twitter une surenchère de propositions radicales et socialistes, un terme marqué à l'extrême gauche aux États-Unis, et prédit une large victoire à Donald Trump dans 15 mois. Les projecteurs se tournent ce soir vers Joe Biden, 76 ans, et la sénatrice Kamala Harris. Lors du premier débat, il y a un mois, la sénatrice noire avait attaqué le vétéran de la politique sur ses positions passées face à la ségrégation raciale. Surpris, il s'était défendu sans ardeur et le lui avait enregistré un bref gain de popularité. La Corée du Nord a lancé hier, aujourd'hui du moins, deux missiles balistiques, a affirmé l'armée sud-coréenne quelques jours après les tirs de deux autres missiles de courte portée pour protester contre les exercices militaires conjoints prévus entre Séoul et Washington. Les missiles balistiques tirés aujourd'hui ont volé environ 250 km à une altitude de 30 km avant de tomber dans la mer de l'Est, le nom que les Sud-Coréens donnent à la mer du Japon. Négociateurs chinois et américains ont tenu aujourd'hui à Shanghai leurs premiers échanges en face à face sur la guerre commerciale depuis 3 mois. Pékin et Washington sont engagés depuis l'année dernière dans un bras de fer commercial qui s'est traduit par l'imposition réciproque de droits de douane punitifs sur plus de 360 milliards de dollars d'échanges annuels. Ce 12e cycle de négociations entre les deux premières puissances économiques mondiales, le premier depuis l'échec des pourparlers début mai, a été relativement bref. À l'issue d'à peine 4 heures de discussion à huis clos, les deux délégations ont posé en début d'après-midi, un peu plus tôt que prévu, pour une photo de groupe. Le président vénézuélien Nicolas Maduro a honoré hier les militants américains qui avaient occupé ce printemps l'ambassade du Venezuela à Washington pour soutenir le régime chaviste. Ces derniers avaient occupé pendant plusieurs semaines, de fin avril à mi-mai, l'ambassade du Venezuela à Washington avant d'en être délogé par la police américaine. L'affaire avait provoqué un casse-tête diplomatique et juridique, les deux camps anti- et pro-Maduro se disputant la propriété de l'ambassade. Cela fait 10 ans que le Nigeria est confronté à l'insurrection de Boko Haram. Le conflit a été déclenché lorsque le fondateur du groupe, Mohamed Youssouf, a été tué lors d'une offensive militaire à Maiduguri le 30 juillet 2009. 10 ans après, que pensent les Nigériens de cette guerre qui a fait environ 30 000 morts? Reportage de Gilbert Tamba Abuja.
Nous sommes le 30 juillet 2009 à Maiduguri. Le leader du groupe terroriste Boko Haram et prédicateur islamiste Mohamed Youssouf est tué par la police nigérienne, marquant le début d'une insurrection violente. Témoignage des Nigériens dans les rues d'Abuja.
It affected our country.
Cela a affecté notre pays en termes de sécurité. Les gens ne se sentent pas en sécurité. Partout où vous partez ou alors que vous voyagez, soit par avion, il y a toujours cette appréhension de l'existence d'une insécurité dans le pays.
Moi, je vivais à Maiduguri, la capitale de l'État de Borno. C'est Boko Haram qui m'a fait venir à Abuja ici. J'avais 6 boutiques. Quand ils sont venus chez moi, Dieu merci, j'étais absent, mais ils ont brûlé toute la marchandise. J'ai tout perdu. Donc je suis venu ici à Abuja et je ne sais pas quoi faire. Présentement, je suis un simple chauffeur.
Le groupe est à l'origine d'une série d'enlèvements dans la région, notamment le rapt de 276 lycéennes de la ville de Chibok en 2014, la multiplication des attentats suicides sur les marchés de l'État de Borno et même la capitale fédérale Abuja n'a pas été épargnée. Quelques 2 millions de personnes sont chassées de leurs villes et villages dans le nord-est. Oumar Gola, 48 ans, a fui son village natal dans l'État de Borno. Borno. Il vit depuis 10 ans dans le camp de déplacés de Durumi à la périphérie d'Abuja.
Nous ne sommes pas contents de vivre ici dans ce camp, mais nous n'avons pas le choix que d'accepter la situation telle qu'elle est. Ce n'est pas notre prière de nous retrouver ici. La vie continue malgré que nous nous trouvons dans cette situation. L'expérience de vie de ce camp n'est pas facile. Surtout la vie des enfants et des femmes est un calvaire. Ils sont les plus affectés par la crise.
Si le groupe n'est plus capable de capturer ou de contrôler des villes d'importance, l'armée, elle, ne parvient toujours pas à éradiquer ou empêcher les attentats récurrents, principalement dans le nord-est du pays. Pour le colonel de l'armée de l'air à la retraite, Sadiq Garbachehu, l'armée nigériane a beaucoup de problèmes.
Le premier problème, c'est le problème d'effectifs. On n'a pas assez d'effectifs sur le terrain. Le terrain là de notre est, c'est un terrain très très large, avec beaucoup d'obstacles là. Donc, pour chaque 1000 populations, on a besoin de 25 soldats. Mais quand on parle d'effectifs, il faut aussi parler d'équipement. Avec de tous les moyens qu'il a besoin pour rester sur place. On n'a pas ça.
Le groupe est aujourd'hui divisé et s'est affilié à l'État islamique, devenant officiellement sa branche en Afrique de l'Ouest. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Les autorités soudanaises ont annoncé la fermeture de l'ensemble des établissements scolaires à partir d'aujourd'hui, et ce jusqu'à nouvel ordre après la mort de 6 manifestants, parmi lesquels 5 lycéens tués lundi lors d'une manifestation dans une ville du centre du pays. La mort de ces jeunes manifestants à Al-Obeid, dans le Kordofan Nord, a également entraîné la suspension de négociations prévues hier entre le mouvement civil et les militaires au pouvoir à Khartoum, les négociateurs de la contestation ayant décidé de se rendre à Al-Obeid. L'UNICEF a appelé mardi les autorités à enquêter et traduire en justice tous les auteurs de violences contre les enfants. 16 jours après un premier cas de maladie à virus Ebola à Goma, grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo, un second patient enregistré mardi renforce la menace d'une propagation de l'épidémie déjà responsable de 1790 morts. Ce cas est le deuxième enregistré dans cette ville d'environ 2 millions d'habitants, située à la frontière avec le Rwanda, depuis la déclaration de l'épidémie dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri le 1er août 2018. Toujours en RDC, la plateforme politique Lamuka dénonce la persistance de la corruption et s'est réunie hier à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, sous la conduite de Moïse Katumbi, qui a passé le flambeau à Jean-Pierre Bemba, qui était représenté à cette rencontre. Eddie Sango.
Moïse Katumbi a réuni ce qui reste encore des leaders de cette coalition transformée en plateforme politique depuis avril. Martin Fayulu, Adolphe Mouzito et Eve Bazaïva, représentantes de Jean-Pierre Bemba absent, ont dénoncé la persistance de la corruption dans le pays. Ils ont fait le constat de la détérioration des conditions de vie de la population, de l'augmentation des inégalités sociales et de l'insécurité. Les leaders de la plateforme ont par contre exprimé leur engagement à mobiliser le peuple pour la mise en place des réformes institutionnelles, notamment la Cour constitutionnelle et la Commission électorale. La Moka sera désormais mais dirigé pour 3 mois par Jean-Pierre Bemba, qui prend la place de Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga. Deux de ses fondateurs, Antipas Mbusanya Mwisi et Freddy Matungulu, ont quitté la coalition pour se mettre au service du président Félix Tshisekedi.
En Centrafrique, les auteurs présumés du massacre de Paoua, qui avait coûté la vie à 46 civils, le 21 mai seront traduits devant la Cour pénale spéciale, CPS, créée pour juger les auteurs de violations grave des droits humains, a annoncé hier le procureur général de la Cour d'appel de Bangui, Eric Didier Tambo. 3 suspects des éléments du groupe armé 3R, Retour, Réclamation, Réconciliation, ont été déférés devant cette cour après qu'ils eurent été livrés par le groupe aux autorités judiciaires du pays. À ce jour, ces 3 suspects sont les seuls mis en cause dans l'affaire, mais l'enquête de la CPS pourrait remonter jusqu'au leader des 3R, Sidiki Abbas, aussi connu sous le nom de Bissidi Souleymane. L'instance chargée des élections en Tunisie a confirmé la date du 15 septembre pour la présidentielle anticipée, rejetant ainsi des appels de partis politiques à repousser cette date annoncée dans la foulée du décès du président Bjiji, Kaïd et Sepsi. Selon le calendrier électoral, les candidatures doivent être déposées entre le 2 et le 9 août. La campagne électorale aura lieu du 2 au 13 septembre et les résultats préliminaires seront annoncés le 17 septembre. La date du deuxième tour de la présidentielle tunisienne n'a pas encore été décidée, mais elle ne doit pas dépasser le 3 novembre. Et Amnesty International a affirmé mercredi que quelques 130 détenus observaient une grève de la faim depuis 6 semaines en Égypte, dans une prison de sécurité dans le sud du Caire, évoquant des conditions de détention cruelles. En réponse à cette grève de la faim entamée le 17 juin, les autorités égyptiennes ont riposté contre les détenus en les frappant, en appliquant des décharges électriques et imposant à d'autres des mesures disciplinaires. Fin de ce journal.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.